Bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Soyez bénis, continuez à être bénis. Merci pour tous ces chants, ces moments de louange que nous avons pu avoir ensemble, où le Seigneur a pu aussi manifester sa présence au travers de ces belles paroles que nous avons entendues. Merci pour ce témoignage de Kim. Et bizarrement, je vais un peu poursuivre ce qu'il a commencé. Je ne savais pas qu'il témoignerait. Et avant de commencer, je voulais partir d'un postulat. Du postulat que tout ce que dit la Bible est vrai, à 100%, comme Kim l'a dit. Vous êtes d'accord? On peut partir de ce postulat? Parce que si vous me dites non, tout ce qui suit n'a aucun sens. D'accord? Au travers de sa parole, on va voir que Dieu nous parle. Au travers de sa parole, Dieu nous parle. Alors, ouvrons nos cœurs, profitons de ces moments pour ouvrir nos cœurs. Alors en effet, Dieu dit, tu peux mettre. Voilà, Dieu dit, toute l'écriture, pas une partie, est inspirée de Dieu, rédigée sous l'inspiration de Dieu, dit la parole vivante, et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement, pas à peu près, parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. C'est Paul qui nous le dit dans 2 Timothée 3,16 dans la version Nouvelle Français Courant. C'est tout de même une belle promesse, ça, non? Trouvez pas? Toute personne qui est au service de Dieu sera ainsi, par l'Écriture, parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Waouh! Moi, c'est. Mon cœur bouillonne quand j'entends ça, quand. Hein? Non? Et ceci est une promesse parmi les nombreuses autres que Dieu nous a faites. Ce n'est pas la seule, hein. Déjà du temps de Josué, dans Josué 21, 45. Ainsi, toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Wow. Pas une seule ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué 21, 45. Donc, une certitude pour nous, à partir de ces promesses, c'est que les promesses de Dieu sont une valeur sûre. Non? Vous savez, on entend beaucoup de choses à la télé aujourd'hui, ceci est une valeur sûre, ça c'est une valeur sûre, mais les choses du monde, valeurs sûres, elles évoluent au fil du temps, hein. Ce qui était valeur sûre hier n'est plus valeur sûre aujourd'hui, et ne sera pas valeur sûre demain. Mais les promesses de Dieu sont une valeur sûre. Au fait, savez-vous combien il y a de promesses de Dieu dans la Bible, à votre avis? Plusieurs milliers? Alors, je ne les ai pas comptées, hein, rassurez-vous. Quelqu'un les a comptées pour nous. Il en a dénombré 7874. Impressionnant, non? Les promesses de Dieu. Et ceci signifie quelque part que les promesses de Dieu couvrent l'ensemble des situations auxquelles nous pouvons être confrontés dans notre vie. Il n'y a pas de situation que nous vivons ou que nous sommes amenés à vivre sans qu'il y ait une promesse de Dieu qui y réponde. C'est merveilleux, donc, quand même, non? Et on comprend mieux quand Jésus nous dit, dans Matthieu 7,7, c'est après, excusez-moi, cherchez et vous trouverez. Et quand Proverbe 4,24 nous dit, mes paroles apportent la vie à ceux qui les trouvent. Proverbe 4,22. Quand Jésus dit cherchez et vous trouverez, Ça veut notamment dire, mais pas que devant une situation donnée, il nous invite à chercher dans les Écritures quelle est la promesse, donc la volonté de Dieu, par rapport à cette situation. Et il nous promet que si nous cherchons, nous trouverons. Amen. Et finalement, ce n'est que lorsque Dieu, ou lorsque nous savons ce que Dieu promet, que toute incertitude peut être levée. Pas ça. Et qu'une foi ferme devient alors possible. Chaque promesse est une révélation de Dieu, de ce que Dieu est vivement désireux de faire pour nous. Amen. Tant que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, sur une situation donnée, nous n'avons rien, je dis bien rien, sur quoi appuyer notre foi. La foi qui nous permet de saisir les bénédictions promises par Dieu nous est donnée seulement lorsque nous connaissons la parole de Dieu, la promesse correspondant à notre besoin. N'est-ce pas ce que nous dit Paul dans Romains 10, 17 ? La foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Hein, donc c'est dans la version Sommer, Romains 10, 17. Donc la foi, notre foi, naît de la parole de Christ. Parole qu'il a reçue directement de son Père, notre Père. Et ceci est vrai pour toutes les situations et épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Toutes. Toutes les œuvres que Dieu fait sont fidèles à ses promesses. Et on vient déjà d'en rappeler 6. Dieu ne fait jamais rien qui ne soit pas déjà dans sa parole. Dieu a donné ses promesses dans le but de quoi ? De les accomplir. Non ? Elles sont une révélation de ce que Dieu est tardiment désireux d'accomplir pour nous. Elles sont parfaitement propres à répondre, comme je disais tout à l'heure, à tous nos besoins, tant personnels que collectifs. Qui plus est, les promesses de Dieu ont un caractère immuable. Cela enlève toute raison de douter, et nous donne de parfaites raisons de nous attendre à Dieu. Elles peuvent produire leurs merveilleux résultats en tout temps. Jésus n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement ? C'est Hébreux 13, 8 qui nous le dit. Par exemple, je n'ai pas besoin d'attendre une manifestation spéciale du Saint-Esprit pour être guéri. Je peux l'être par la foi, dès maintenant, foi que le Saint-Esprit honorera en agissant. Dieu honore la foi de celui qui croit en ses promesses. Un évangéliste du XXe siècle, Fred Francis Bosworth, qui eut un très puissant ministère de guérison, écrit à propos des promesses. Des millions de personnes chantent des cantiques en proclamant leur confiance dans les promesses de Dieu. Alléluia ! Mais la réalité, c'est que la plupart des promesses de Dieu ne sont jamais ou rarement revendiquées par la plupart de nos églises modernes. On les chante, mais on ne les revendique pas. S'appuyer, continue-t-il, sur les promesses de Dieu signifie que l'on fait ce qu'il faut pour qu'elles s'accomplissent. Cela signifie que l'on saisit la bénédiction que chaque promesse révèle. C'est toujours lui qui parle. Et il donne un exemple. Si tous les cultivateurs, on en a ici, si tous les cultivateurs traitaient leurs semences comme des millions de membres d'églises chrétiennes traitent aujourd'hui la semence incorruptible que sont les promesses de Dieu, le monde entier mourrait de faim. Ça fait réfléchir, non? Alors, de notre côté, que faisons-nous des promesses de Dieu? Nous savons qu'elles sont fiables, immuables, que ce sont des valeurs sûres. Mais les recherchons-nous lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, une épreuve, la maladie, etc. Vers quoi tournons-nous nos regards en premier devant ces situations? Je dis bien en premier. Jésus dit dans Matthieu 6, 33, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première » dans la version Semeur. C'est vraiment une invitation claire à nous tourner vers Dieu en premier, en toutes circonstances, non? C'est bien ce que je comprends. Et quelle est la meilleure façon de nous tourner vers Dieu, si ce n'est, en toutes circonstances, surtout lorsqu'elles sont difficiles, d'aller rechercher ce qu'il a prévu de bon pour nous, à savoir ses promesses? Elles sont toutes là, à notre disposition. Cependant, notre premier réflexe, quel est-il? N'est-il pas, parfois, souvent, d'aller rechercher la réponse dans des solutions humaines? Même parfois de demander à Dieu des solutions humaines. Autrement dit, naturelles. Et ça nous rassure, parce qu'on les connaît. Et je vais vous laisser. Mais donc cela, donc cette démarche, c'est en fait limiter Dieu, manquer de confiance en lui, et ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Lui, donc, souhaite nous allions rechercher ses solutions, qui sont des promesses surnaturelles. Et je vous laisserai une anecdote à ce sujet, rapportée par André Thomas Bresse, c'est un nom que certains connaissent peut-être, qui est un des acteurs du réveil en France au XXe siècle. C'est une anecdote que j'avais déjà partagée, voilà, 3 semaines, lors du jeûne. Mais, ça date aussi à ce moment. Un jour, un moniteur d'école du dimanche expliquait à un groupe d'enfants l'histoire de la guérison de l'aveugle de Bartimée dans Marc 10, 46, 52. Bartimée crie, tout le monde la connaît cette histoire, Bartimée crie, « Fils de David, aie pitié de moi !» Mais la foule cherche à le faire taire. Cependant, Jésus, l'ayant entendu, dit, « Appelez-le !» Puis lorsqu'il arrive vers Jésus, Bartimée, Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, avant de dire la suite, le moniteur pose la question aux enfants. Si vous aviez été comme Bartimée, qu'auriez-vous demandé à Jésus? Silence dans l'auditoire, comme ici. Puis une petite fille s'écrie, j'ai trouvé une canne blanche. C'est pertinent, non? Silence. Puis un petit garçon dit, « Moi, j'aurais demandé à Jésus un chien aveugle. » Oui, pertinent aussi. Effectivement, c'est mieux qu'une canne blanche. Alors le moniteur poursuit et leur répond: Eh bien, Bartimée a demandé encore mieux que cela. Que je recouvre la vue. Et aussitôt, Jésus lui dit: Ta foi t'a sauvé, et il vit clair. Mais est-ce que, comme ses enfants, ce n'est pas parfois ou souvent des solutions humaines que nous demandons à Dieu, auxquelles nous pensons en premier, dont on sait qu'elles existent et fonctionnent, qu'elles répondront à notre situation, qu'elles sont raisonnables et rassurantes à nos yeux? N'est-on pas parfois un peu comme ça? C'est bien, hein? Elles ne sont surtout pas à rejeter, ces solutions. Elles sont utiles. Mais ce ne sont finalement pas les solutions que Dieu souhaite. Ce sont finalement donc des solutions terrestres, accessibles à tout le monde, comme la canne et le chien. Nous, nés de nouveau, sont les solutions célestes que nous sommes appelés à rechercher. Dieu nous les donne et nous les rend accessibles, ces solutions célestes. Elles ont été promises et nous savons que Dieu tient ses promesses. Il est fidèle. Alors ne passons pas à côté. Saisissons-les. Osons le surnaturel de Dieu. Et à ce propos, je rappellerai aussi une citation d'un évangéliste, Reinhard Bonnke, créateur de la mission Christ pour toutes les nations. Il dit: Ne faites pas de projet en fonction de ce qui est dans votre poche, donc de vos limites. Faites des projets en fonction de la poche de Dieu, qui est illimitée. Et il ajoutait: Nous sommes limités dans nos projets et dans ce qu'on demande, parce que nous limitons Dieu dans nos pensées. Dieu pourvoit et agit au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il agit au-delà de la canne blanche ou du chien aveugle. Il a fait recouvrir la vue à Bartimée. Et donc Reinhard Bonnke poursuit: Soyons réalistes. Soit la foi chrétienne est surnaturelle, ou elle n'est rien du tout. Jésus est encore aujourd'hui un Jésus surnaturel, œuvrant de manière surnaturelle. Cela crée une église surnaturelle. Au travers d'un évangile surnaturel. Dans une Bible surnaturelle. L'église devient alors une société, si ce n'est pas le cas, hein, l'église devient alors une société avec de simples principes éthiques, sans le surnaturel. Un club social. Alors que sa destinée est en fait d'être un système de transmission de la puissance de Dieu dans un monde sans force. Fin de citation. À méditer aussi. Hein. Que voulons-nous être? Un club social? Une organisation sociale? Comme il en existe beaucoup déjà dans le monde, et cependant la plupart sont très utiles. Hein. Ou bien voulons-nous être un outil, un canal de transmission de la puissance de Dieu, tant pour les autres que pour nous. Paul dit, et c'est ô combien d'actualité aujourd'hui, il le dit dans Romains 12, 2, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Romains 12, 2, dans la version Parole vivante. Il y a du grain à moudre là. Adopter une attitude différente. Ça pourra par exemple, mais pas que, commencer par veiller à ce que nous déclarons, nous semons à propos de nos difficultés, c'est-à-dire des paroles que nous exprimons. En effet, nous ne pouvons pas semer une chose et nous attendre à en récolter une autre. Si nous déclarons l'abattement, nous serons abattus. Si nous déclarons la défaite, nous serons défaitistes. Si nous déclarons le doute, où seront nos appuis? Si nous déclarons la victoire, nous serons victorieux. Concernant donc notamment la maladie, je sais par expérience que ce n'est pas facile d'affirmer la guérison lorsque nous sommes malades. Mais c'est pourtant à cela que Dieu nous appelle et à revendiquer ses promesses qui sont oui et amen. Et de façon plus générale, au travers de ce que nous disons, au travers de ce que nous déclarons, nous pouvons permettre à Dieu d'accomplir son plan pour notre vie. Ou au contraire, retarder, voire bloquer ce plan. Parce que nous déclarons simplement. Il y a un exemple significatif dans la Bible, qui est celui du peuple hébreu que Dieu fit miraculeusement sortir d'Égypte. Tout le monde connaît cet épisode. Oui. Eh bien, il leur a fallu seulement 11 jours pour traverser le désert. C'est pas beaucoup, hein. Ils ont été rapides, hein. Mais ils commencèrent à douter, murmurer, se plaindre, critiquer et exprimer tout cela. Alors Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 ans. En 11 jours, ils y étaient, hein. Mais à cause de leurs doutes, leurs murmures, leurs critiques, il les a fait tourner pendant 40 ans. Et à part Josué et Caleb, aucun, vous entendez bien, aucun ne vit l'accomplissement de la promesse. Pourtant, cette promesse s'est accomplie, mais sans eux. Ce n'est sûrement pas ce que nous voulons. Alors plutôt que de nous attarder à parler de notre épreuve, de notre maladie, proclamons les promesses de Dieu sur notre épreuve, notre maladie. Amen. Marc, donc Jésus dit dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Nous passons, nous, probablement, peut-être, beaucoup de temps à parler à Dieu et aux autres de nos montagnes. Mais ici, Jésus ne nous exhorte pas à parler de nos montagnes. Il nous exhorte à parler à nos montagnes, ce qui est totalement différent, en ne laissant place à aucun doute. C'est bien ce que Jésus dit, non? Et c'est ce qu'il fit durant tout son ministère. Alors même si nous doutons, et ça m'arrive aussi, hein, de douter. Et ça vous arrive donc probablement également. Hein. Qui ne doute pas? Même si les promesses de Dieu nous paraissent humainement démesurées, voire irréalistes au regard du monde, ne prononçons pas nos paroles de doute. Ce que nous ne prononçons pas n'est pas semé et ne peut donc rien produire. Et je vais vous rappeler un épisode également de la parole de Dieu à ce sujet. L'épisode de la prise de Jéricho. Vous connaissez aussi, tous. C'est une ville fortifiée, Jéricho, entourée d'imposantes murailles. Et le peuple hébreu ne savait pas comment faire pour s'emparer de la ville. Alors Dieu leur dit d'en faire le tour une fois par jour, durant 6 jours, et d'en faire 7 fois le tour le 7e jour. Alors cela leur a probablement paru irréaliste, du moins pour certains d'entre eux. Hein. J'imagine le peuple. Certains ont même pu penser, oui mais, ce n'est sûrement pas comme ça que nous allons vaincre. Hein. Alors, avant même que ces doutes ne soient prononcés, Josué était très rapide, très réactif. Il leur ordonna, dans Josué 6,10, « Vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira aucun mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris », c'est-à-dire au dernier jour. » Car Josué, il avait l'expérience de ce qui s'était passé dans le désert. Hein. Il savait que si des doutes étaient prononcés, ou des critiques, ou des murmures, etc., la promesse ne pourrait pas s'accomplir comme Dieu l'avait prévu. Et il en va ainsi de toutes les promesses. Les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accompagner de « oui mais » exprimé. « Oui mais, est-ce que ça va marcher ?» Oui, mais je vois pas de résultat, ni chez moi, ni chez les autres. Oui, mais ça fait des années que je suis comme ça. C'est pour aujourd'hui que ça va changer. Hein. Oui, mais ma situation maintenant est irrécupérable. Oh. Oui, mais dans cette promesse, faut tout de même faire la part des choses. Oui, mais, tout de même, notre époque a changé. Hein. Ça, on l'entend aussi. Etc. Les oui, mais peuvent être très nombreux. Eh bien, non. Les oui, mais exprimés bloquent ou peuvent bloquer l'accomplissement des promesses. Une promesse, c'est mais oui. Et amen. Une promesse divine se saisit telle qu'elle est et ne se discute pas. Et rappelons-nous que concernant leur accomplissement, ce n'est pas nous qui agissons, mais le Saint-Esprit. À chaque fois que la promesse produit la foi en nous, sur notre situation, notre tâche est uniquement de les rechercher, les saisir, les revendiquer, les proclamer avec foi. Sur la situation ou celle des autres, quand nous prions pour eux. Sans se poser de questions, comme un petit enfant. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Hein. C'est ceux qui sont comme un petit enfant à qui le royaume de Dieu appartient. Qui peuvent rentrer dans le royaume de Dieu. Alors faisons confiance à Dieu. Et il ouvrira les portes pour nous. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Ne mettons pas Dieu hors jeu en ressassant nos épreuves. Mais permettons-lui d'agir en proclamant ses promesses sur nos épreuves. Même dans l'épreuve, Dieu est présent à nos côtés et nous soutient. David dit, « Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. » Dans la version Semeur, psaume 23, verset 4. Vous savez, dans la vie, il y a toujours deux voies qui s'offrent à nous. Il n'y en a pas plus. C'est déjà bien. Et c'est simple à choisir, comme ça, au moins. Je crois qu'il y a parfois la voie médiane, qui est 50-50. Et la voie 50-50. Bon. Deux voies. La voie de la raison humaine, c'est-à-dire marcher selon la chair, ou la voie de la foi, c'est-à-dire marcher selon l'esprit. Comme Paul nous y invite, dans Galates 5, 16, marcher selon l'esprit. Tout chrétien que nous sommes, nous pouvons chercher à régler nos difficultés en marchant selon la chair. Cela signifie que, dans ce cas, nous allons rechercher à résoudre ces difficultés à la manière de ceux qui nous entourent dans le monde, à la manière de tous, sans se préoccuper de rechercher d'abord la pensée de Dieu. Nous ferons alors ce que nous pensons juste, nécessaire, raisonnable, rassurant, jusqu'à parfois même demander à Dieu de bénir nos décisions et nos actions. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il bénirait nos choix humains. Nous pouvons aussi régler nos problèmes en marchant selon l'esprit. Deuxième solution. Dans ce cas, nous rechercherons d'abord, dans la parole de Dieu, quelle est la pensée de Dieu concernant notre situation. Nous rechercherons les promesses qu'il nous propose, dont nous n'aurons qu'à nous saisir et agir en conséquence. C'est cela, marcher selon l'esprit. Choisir de proclamer hardiment la parole de Dieu sur nos circonstances difficiles. C'est faire un choix entre notre capacité humaine terrestre ou la solution divine céleste. La voie de la raison humaine est celle que nos yeux voient. Nous l'avons vu, elle retarde, voire même peut bloquer l'action de Dieu. La voie de la foi est invisible. Ah, c'est notre gros problème, ça. La voie de la foi est invisible à nos yeux. Mais nous avons, nous, nés de nouveau, la ferme conviction qu'elle existe, car Dieu nous l'a montré. Il nous l'a montré comment ? Notamment au travers de la personne de Jésus, au travers de son œuvre. C'est bien à travers cela qu'il nous a montré la voie de la foi. Donc un exemple, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, avant même que Lazare ne ressuscite, il dit « sors de là ». Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, avant même de voir Lazare ressuscité. Il a dit, Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, dans Jean 11, 41. Alors laissons un peu de côté la voie de la raison et choisissons la voie de la foi. la voie où nous pouvons voir la grâce surnaturelle de Dieu se manifester. Amen. La voie de la foi, c'est la voie où nous pourrons voir la grâce surnaturelle de Dieu se manifester. Vous savez, la parole de la raison paraît toujours sage, puisqu'elle n'est que le reflet de ce que l'on voit, des réalités visibles. Mais elle est souvent à l'opposé de la parole de Dieu. Nous voudrions que Dieu soit logique. Ça, c'est la raison. Mais il ne l'est pas. Il est surnaturel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55:8. La parole de foi consiste à proclamer de notre bouche l'inverse de ce que nos yeux voient. Quitte à passer pour des fous, hein, aux yeux de ceux qui nous entourent. Et il nous est difficile d'accepter de passer pour des fous, n'est-ce pas? Moi en premier. Mais Paul dit, dans 1 Corinthiens 2,14, l'homme naturel, donc il marche selon la chair, n'accepte pas ce qui vient de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement, donc quand on marche selon l'esprit, qu'on en juge. Et nous pouvons donc être pris pour des fous lorsque nous déclarons des vérités bibliques. Jésus a été moqué, hein. Vous pourrez reprendre ou voir Marc 5,40. Paul a même été traité de fou par Festus lorsqu'il témoignait. Paul, tu es fou, tu déraisonnes. Vous verrez dans Actes 26-24. La parole de foi, ce n'est pas la parole de ce que nous voyons, mais de ce que nous croyons. Car nous marchons par la foi et non par la vue, dans 2 Corinthiens 5-7. La parole de foi consiste donc à regarder nos situations comme si elles avaient déjà changé. La foi visualise ce qui n'est pas encore manifesté. Alors efforçons-nous de garder nos yeux fixés sur ce que dit la parole et de garder les promesses de Dieu avec foi et conviction. Et ce que je dis là, je le dis aussi pour moi. C'est une discipline. Mais en fait, ne sommes-nous pas disciples de Jésus ? Alors ne crains pas, crois seulement, dit Jésus dans Marc 5,36. Ainsi, Dieu veut encourager chaque chrétien à croire ses promesses, même lorsque ce qu'il voit est en contradiction avec la promesse. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11,6. Et je vais terminer. La parole de Dieu est une puissance spirituelle, surnaturelle, que le Saint-Esprit met en action au moment, vous l'entendez bien, au moment où nous la proclamons. La parole de Dieu est une puissance spirituelle, surnaturelle, que le Saint-Esprit met en action au moment où nous la proclamons. Après, il nous reste quoi à faire ? Qu'à rendre gloire à Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Alors, si on devait résumer en quelques mots comment se saisir des promesses de Dieu, quel que soit notre besoin, on pourrait le formuler ainsi. Rechercher, dans la parole de Dieu, une promesse correspondant aux circonstances que je traverse. C'est agir selon l'esprit. 2. Revendiquer et proclamer avec détermination cette promesse aux circonstances adverses que je traverse. dire en quelque sorte, montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Dieu confirmera sa parole au moment où ma bouche la proclame avec foi. Pas après, au moment où je la proclame avec foi. Ensuite, 4. Restez fermement dans cet état de foi où Dieu agit, où il est à l'œuvre. Et surtout, le laisser agir. Ne pas vouloir reprendre la main. Et ça, instinctivement. Oh là là. On prie Seigneur. On s'appuie sur sa promesse. Seigneur, c'est bien, tu m'as entendu. Parfait. Puis après, on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, tu fais confiance à la promesse? Ou pas? Ne pas vouloir reprendre la main. 5. Veillez à ne pas bloquer l'action de Dieu par des déclarations contraires. Mais le remercier et lui rendre gloire pour l'œuvre qu'il accomplit selon sa promesse. Amen. Dieu honore sa parole, on l'a vu. En la confirmant et en lui rendant témoignage, autrement dit en permettant qu'elle s'accomplisse. Il en est exactement aujourd'hui comme à l'époque de Paul, Barnabas, Pierre, Jean. Ils ne disposaient de rien d'autre que des promesses de Dieu, qu'ils proclamaient au nom de Jésus. Et ce cheminement s'applique à toute épreuve que nous sommes amenés à vivre, que ce soit dans le domaine des relations familiales, je pense aussi aux célibataires, de nos finances, de notre travail, etc., ainsi que de la maladie. Dieu accomplit toutes choses en faisant d'abord une promesse, puis en l'accomplissant par Saint-Esprit, chaque fois que l'on s'en saisit et qu'elle produit la foi en nous. Tant de personnes attendent que Dieu les tire de leur épreuve, les sorte de leur épreuve, alors que c'est Dieu qui attend que nous prenions ce qu'il nous offre. Je répète, c'est Dieu qui attend que nous prenions ce qu'il nous offre. Personnellement, il n'y a pas si longtemps que j'ai pleinement compris et intégré tout cela. Tout ce que je viens de partager avec vous. Et je confesse que si je l'avais intégré plus tôt, ma vie en aurait sûrement été parfois plus sereine. Alors, j'ai un témoignage de 5 minutes, si vous me laissez encore 5 minutes à vous apporter. Oui ? Merci. Donc, je terminerai en vous laissant un témoignage de guérison. Depuis plusieurs années, j'avais une douleur aiguë à la hanche. Une radio a été faite, ne montrant pas de problème majeur d'usure de l'articulation. Le médecin on a conclu qu'il s'agissait d'une sciatique de hanche. Donc, prescription de quoi ? D'antidouleur. Rien d'autre. Mais le problème a empiré, voilà quelques mois, au point de me rendre la marche très douloureuse. Une douleur vive apparaissant après seulement quelques minutes de marche, m'obligeant à m'arrêter avant de repartir, ensuite pour quelques minutes, et ainsi de suite, durant toute la marche. Difficile aussi, avec un problème cardiaque m'obligeant à marcher tous les jours au moins 30 minutes. Alors marcher 30 minutes dans ces conditions-là, je vous assurais que ce n'était pas évident. Alors j'en ai pas reparlé à mon médecin parce qu'il m'aurait dit « sciatique, antidouleur, augmentons les antidouleurs ». Mais je suis saisi de la promesse de Dieu qui dit « C'est de nos maladies qu'il s'est chargé, Jésus, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. » c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, pas vous serez guéris. Que nous sommes guéris. C'est Ésaïe 53, versets 3 et 5. Repris aussi par Matthieu 8, 17. Repris aussi par Pierre 2, 24. Donc, c'est une promesse qu'on retrouve souvent. Et je l'ai revendiquée et proclamée sur ma douleur, en la rejetant. Point final. Puis j'ai remercié Dieu de cette promesse et de la guérison qu'il m'accordait. Alors les jours qui ont suivi, la même douleur aiguë était encore là. Alors je m'arrêtais de marcher, à chaque fois, pour la chasser au nom de Jésus en proclamant la promesse. Je mettais la main et je chassais la douleur en proclamant la promesse et remerciant Dieu pour l'œuvre de guérison qu'il opérait en moi. Ça a duré quelques semaines, ça n'a pas été immédiat. Mais je suis resté le regard fixé sur la promesse, rejetant les symptômes et remerciant Dieu pour sa guérison. Et puis un jour, voilà presque 2 mois, je suis sorti et plus de douleur. Et depuis, plus de douleur. Elle a capitulé. Ce qui me permet aujourd'hui de faire une marche quotidienne à un bon rythme, bonne pour le cœur. En outre, depuis 3 semaines, je suis en réadaptation cardiaque, où nous faisons du sport suivi et intensif. Et aucune douleur. Dieu a accompli sa promesse. Que toute la gloire lui en revienne. Alors j'ai fait la même chose pour mon problème cardiaque et je remercie Dieu chaque jour pour l'accomplissement de sa promesse et l'œuvre de guérison qu'il a engagée et opère en moi à ce niveau. Point final. La parole de Dieu est notre meilleur remède pour le corps, l'âme et l'esprit. À utiliser sans modération. Amen. Soyez bénis.